À l'occasion de ce deuxième cours, consacré comme le précédent sur la ligature d'Isaac, Akedat Yitzhak, et comme ceux qui suivront, consacré à des thèmes difficiles de la Torah, et des thèmes sur lesquels nous sortons souvent insatisfaits d'une lecture première un peu trop simple, parfois simpliste, exagérément pieuse, mais pas toujours satisfaisante intellectuellement. À l'occasion donc de ce deuxième cours, sur l'un de ces thèmes difficiles, nous traitons maintenant ce texte, ces versets qui se trouvent dans le deuxième chapitre de la Genèse, Bereshit, chapitre 2, au verset 16 et 17. Il y est question de l'interdit de manger l'arbre de la connaissance. Ne pas manger l'arbre de la connaissance est souvent interprété d'une manière extrêmement réductrice, à la limite magique. Si l'on demande au commun des lecteurs ce qui se passe dans le deuxième chapitre autour de ces versets 16 et 17 dans la Genèse, alors beaucoup de gens diront que Dieu avait donné un ordre à Adam de ne pas manger un certain arbre, comme si tous les arbres du jardin étaient permis à la consommation, à l'exception d'un seul, et malheureusement, Ève et Adam auraient transgressé ce seul commandement qui leur avait été donné. N'y eût-il eu cette transgression, Adam et Ève n'auraient pas été chassés du jardin d'Éden, l'histoire humaine eût été différente, notre rôle, aujourd'hui, d'enseignant, pour le moins très, très différent. Sauf que cette lecture a quelque chose à la fois d'insatisfaisant et de magique. Comme si, n'ayant su résister à la seule tentation que le texte indique ici, Adam et Ève nous avaient mis dans un sale pétrin. Ils avaient, ou ils auraient, modifié complètement l'ordonnancement de l'histoire de l'humanité. Et pour réparer cela, nous aurait été donné, à nous juifs, juifs pratiquants, la Torah, avec ses 613 commandements, qui serait comme une manière de réparer, entre guillemets, une sorte de péché originel, de faute première. Je crois qu'il faut non seulement battre en brèche, mais reconsidérer complètement cette lecture, et pour ce faire, nous allons suivre la ligne d'explication de plusieurs très grands maîtres de la tradition rabbinique. Le premier, qui est un élève du Gaon de Vilna, qui reprend l'enseignement du Gaon de Vilna, c'est Rabbi, non pas Chaim de Volodin, connu parce que traduit en partie en français, mais un autre élève du Gaon de Vilna, à savoir l'auteur du Pitrei She'arim, Rabbi Yitzhak Wildman. Dans ce livre, il développe des enseignements très pointus, et je dirais des enseignements qui répondent à notre attente comme s'ils nous aidaient à penser notre vie quotidienne, c'est-à-dire comme si ces versets 16 et 17 du deuxième chapitre de la Genèse pouvaient nous aider à penser la vie aujourd'hui, à mieux la comprendre et à mieux nous comporter. Et puisque nous citons les très grands maîtres de la tradition rabbinique, qui lisent avec finesse, exigence et rigueur ces deux versets du deuxième chapitre de la Genèse, eh bien, il nous faudra mentionner, d'abord, l'auteur du Tzidkat HaTzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, son maître, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, l'auteur du Mehashiloach, deux enseignements tirés d'autres livres, non pas de l'école chassidique issue de Kotsk, Psichra, Ishbitzra, Lublin, que représentent Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin et Rabbi Mordechai Yosef Leiner, mais l'auteur du Mesheh Chochma, Rabbi Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, en Lettonie, et enfin Rabbi Yosef Rosin, celui que l'on appelle communément le Gaon, le génie de Rogatchov, auteur de cette œuvre monumentale, à savoir le Tzafnat Paneyar. Voilà pour nos maîtres, voilà pour les références en termes de commentaires rabbiniques qui nous aident à entrer dans ces deux versets du chapitre 2 de la Genèse. Qu'est-il dit dans ces versets ? Que, après avoir créé l'homme, mais avant de créer la femme, Dieu a donné un ordre au premier homme, Adam. Nous lisons cet ordre en hébreu, verset 16 du deuxième chapitre de la Genèse. Vayotzav Hashem Elokim al Ha'adam lemor. Le tétragramme, Dieu de justice, donna l'ordre à l'Adam, lemor, pour qu'il dise, pour qu'il transmette à son tour. Autrement dit, Adam n'a pas pour seule vocation d'entendre, mais aussi de dire, donc de transmettre, plus tard et à son tour, lorsqu'il y aura lieu de transmettre, et nous savons que seul il n'y a personne à qui transmettre cet ordre, mais qu'après la création de la femme, il y aura lieu de transmettre l'ordre divin à la femme. C'est un enseignement qui est d'autant plus important, et c'est ce qu'enseigne Rabbi Simcha Meir HaKohen de Dvinsk dans le Mesheh Chochma, que dans le troisième chapitre, il est question de la femme qui dialogue avec le serpent et qui, suite à cet échange avec le fameux serpent, invite le premier homme, Adam, à manger de l'arbre de la connaissance. Mais si l'on n'oublie pas que la femme n'était pas créée au moment où l'ordre fut donné, alors on comprendra déjà que si la femme commet une erreur, et elle en commet une, en disant qu'il ne fallait pas toucher ou manger de l'arbre de la connaissance, alors qu'il n'avait été dit par Dieu à Adam qu'une chose, ne pas manger, et qu'il n'avait jamais été question de ne pas toucher, c'est donc bien que la femme se trompe dans l'énoncé de l'ordre divin, et que si erreur il y a dans la bouche de la femme, c'est qu'auparavant, l'homme ne lui a pas ou mal transmis cet ordre. Ce qui veut dire qu'au lieu d'accabler la femme sur cette fameuse incitation à manger de l'arbre de la connaissance, il faut préalablement prendre en compte le fait que l'homme a mal transmis l'ordre divin à la femme et que, nanti de cette erreur dans la transmission, la femme poursuit de travers, communique dans l'erreur et que la faute, si faute il y a dans la parole de la femme, que cette faute n'est que le prolongement d'une faute engendrée par un déficit de transmission par l'homme à la femme. Cette première observation étant faite, il nous faut revenir au texte et à ce verset 16. Dieu donne l'ordre à l'Adam pour qu'il transmette à son tour. Que doit-il transmettre ? Mikol Eitz Hagan Chol Tochel, de tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. Autrement dit, ce n'est pas une tolérance. Ce n'est pas, bon, il y a une chose que tu n'as pas le droit de manger, mais par ailleurs, je te laisse manger le reste. Parce que si tel était le cas, alors l'interdit de manger l'arbre de la connaissance surviendrait en premier et ce que l'on pourrait appeler un pis-aller. Le reste qui est toléré surviendrait en second. L'ordre est tout à fait inversé, à savoir manger de tous les arbres du jardin, tu mangeras. Ce qui est comme un ordre. Autrement dit, il n'y a pas lieu de se méfier, il n'y a pas lieu d'avoir de la défiance à l'égard des arbres de la nature, on dirait à l'égard du monde, de tout ce qui occupe l'espace de la nature aujourd'hui. Au contraire, le devoir de consommation, d'en tirer profit, de se faire plaisir, est tout à fait naturel, à une condition près. Et c'est ce qui va maintenant être énoncé dans le deuxième verset, à savoir le verset 17, « Ume eitzada tovara lotochal mimenu » et de l'arbre, non pas de la connaissance du bien ou du mal, mais de la bonne ou de la mauvaise connaissance, qui est une traduction beaucoup plus juste, parce que la connaissance peut être bonne, la connaissance peut être mauvaise. Je veux dire par là, et c'est ce que nous enseigne déjà le Pitrei Shearim Rabbi Yitzhak Wildman, cité tout à l'heure, que ce n'est pas un objet dont l'arbre serait porteur. Il porterait quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais qu'il nous appartiendrait de choisir. C'est une bonne ou une mauvaise connaissance. Il y a deux formes de connaissance. L'une peut être bonne, l'autre peut être mauvaise. Nous allons voir très vite ce qui conditionne la recherche de la bonne ou la recherche de la mauvaise connaissance. De cela, tu ne mangeras pas. C'est-à-dire que de la connaissance, tu ne mangeras pas parce que, et c'est ce qu'explique le même Rabbi Yitzhak Wildman, si la connaissance, tu la manges, alors cette connaissance devient mauvaise. Et si tu sais ne pas la manger, elle devient bonne. Voilà ce que dit, dans les termes mêmes, de ce très grand maître de la tradition d'Israël, élève lui-même du Gaon de Vilna, voilà ce que veut dire de la bonne ou de la mauvaise connaissance, tu ne mangeras pas. J'insiste sur l'énoncé de Rabbi Yitzhak Wildman, à savoir que si la connaissance, tu la manges, alors elle devient mauvaise. Si tu ne la manges pas, et il nous reste à savoir qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là de la connaissance, alors elle est bonne pour toi. Car au jour où tu la mangeras, et j'achève la lecture du verset, mot tamut, mourir, tu mourras. Permettez-moi simplement d'ajouter une chose, c'est qu'Adam et Ève ont peut-être mangé de l'arbre de la connaissance, mais ils ne sont pas morts. Peut-être ont-ils mangé des fruits de l'arbre de la connaissance, mais ils ne sont pas morts. Autrement dit, il n'y a pas d'effet magique, ce n'est pas un poison qui interrompt la vie. Sans doute est-ce autre chose. La mort n'est pas qu'un phénomène physique. Lorsque l'on dit aujourd'hui en français « il y a de la mort dans les générations », qui est une expression que l'on entend parfois, « il y a de la mort dans l'histoire ». En psychologie, on dit « il y a un esprit mortifère dans une famille, une communauté ou une société ». Que veut dire mortifère ? C'est-à-dire que l'idée de la mort est présente, qu'il y a comme un sentiment de mort, une impression de mort qui peut conduire à une mort réelle, mais qui détériore, qui altère et qui peut conduire les sujets ainsi altérés à leur perte. Quelle est la perte ? Le meurtre d'Abel. Autrement dit, Adam et Ève ont effectivement mangé des fruits de la connaissance, de l'arbre de la connaissance. Eux-mêmes ne sont pas morts, mais leur conduite dans l'histoire mène cette dernière au meurtre d'Abel par Caïn et une sorte de disparition dans l'histoire par errance de Caïn. La mort est à la fois physique, Abel, et symbolique, historique, Caïn. Voilà ce qu'enseigne un autre maître de la tradition, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Revenons à nos versets, ou plus exactement, resserrons notre réflexion autour des versets. Ici, on nous enseigne que manger de la connaissance est interdit sous peine de mort, au sens que nous venons de donner, dans l'histoire de cette famille humaine ou de l'espèce humaine. Que signifie manger la connaissance ? Je me permets, comme nous l'enseigne le même Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, non pas d'occulter, mais de laisser comme en marge l'un des termes de ce verset, le mot arbre. Nous savons que l'arbre a des racines et qu'il se dresse vers le ciel, qu'il évoque tout ce qui monte de la nature. Cela peut être des arbres, mais cela peut être tout produit de la nature, comme cela peut être, d'une manière plus symbolique, l'humain. L'humain a des racines et il cherche à s'élever au-dessus de son état nature pour se cultiver, pour le dire dans un langage laïque, pour s'élever vers les cieux, vers ce qu'il y a de plus élevé en lui, ce que l'on appelle la transcendance et ce que les plus croyants appellent Dieu. Pour dire simplement que ne pas manger de l'arbre de la connaissance, ce n'est pas qu'un arbre, mais cela peut être les produits de la nature, cela peut être l'humain, et nous allons voir ce que signifie ne pas manger l'humain. Cela peut aussi être la culture, qui ne doit pas être mangée, mais qui doit répondre à une autre attente et à un autre mode d'accompagnement. Revenons toujours à notre texte, si nous mettons comme, entre parenthèses, le mot « arbre », et lorsque je dis entre parenthèses, je ne le fais que parce que j'ai donné sens, j'ai suggéré ce que le terme « d'arbre » peut signifier. Le sachant, ne pas manger de l'arbre de la connaissance devient ne pas manger de la connaissance au niveau de tout ce que symbolise l'idée de l'arbre. Donc, ne pas manger de la connaissance est quelque chose qui est formellement interdit. Pourquoi nous enseigne-t-on ici ? Pourquoi Dieu donne-t-il cet ordre à l'Adam ? Je devrais dire pourquoi Dieu, avant toute autre chose, en amont de toute autre parole, et c'est sa première parole à l'humain, le seul ordre, la seule loi qu'il donne à l'humain, ne pas manger la connaissance. Si l'on réfléchit quelques instants, accompagné pour cela des commentaires des grands maîtres de la tradition d'Israël, dont nous avons tout à l'heure donné et l'œuvre et le nom. Et en particulier avec l'auteur du Me'ashi Lohar, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qui fut un élève, un disciple, dissident du fameux rabbi de Kotsk, cette fameuse chassidoute de Kotsk, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, la chassidoute de Izbitka en Pologne, Izbitses. Que nous enseigne-t-il? D'abord et simplement ceci. À penser ce que manger veut dire et ce que connaître veut dire. Et c'est la force de cet enseignement que de ne pas mélanger les choses. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui était interdit à la consommation. Était-ce une pomme? Était-ce la vigne? Était-ce le blé? Était-ce autre chose? Pas du tout, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas l'objet de la nature qui est ici suggéré ou sous-entendu dans le verset dans l'interdit de le consommer, mais l'idée à la fois simple, mais aussi très dense et complexe, c'est-à-dire profonde, de ce que manger et connaître veulent dire dès lors qu'il est interdit de manger le produit de l'acte de connaître que l'on appelle la connaissance. Pour quelle raison? Parce que, et réfléchissons-y un instant, manger, qu'est-ce que c'est? Et de l'autre côté, connaître, qu'est-ce que c'est? Manger, c'est satisfaire un besoin. C'est-à-dire ramener à soi quelque chose qui est autre que soi pour satisfaire un besoin tout à fait naturel de vie, de survie, de plaisir. On peut consommer de la nourriture parce qu'on a faim, une boisson parce qu'on a soif. On peut consommer de la connaissance parce qu'on a soif de culture, on est avide de culture, toujours des termes alimentaires. Il peut aussi y avoir ce que l'on appelle une consommation sexuelle, c'est-à-dire répondre, satisfaire un besoin du corps. Autrement dit, et à chaque fois, il y a quelque chose d'extérieur à soi qui sert à répondre à des besoins personnels. On ramène ce qui est autre que soi à soi-même. Autrement dit, et très simplement, pour reprendre l'expression de Rabbi Mordechai Yosef Leiner, c'est ramener le monde à soi. Utiliser ce qui est autre, ce qui est extérieur à soi-même, le monde, pour satisfaire son quant à moi. Autrement dit, nos propres besoins, ce qu'on appelle l'ego. Et c'est la raison pour laquelle l'arbre peut aussi bien suggérer la nature avec ses produits que l'humain et tas d'autres choses qui tout à l'heure ont été rappelées par la symbolique de notre enseignement. Ne pas manger la connaissance. Si manger c'est réduire à rien, on peut le dire autrement, c'est maîtriser, s'approprier, faire sien. Utilisons le terme de maîtrise, exercer un pouvoir sur pour en faire usage pour soi-même. Connaître, par opposition à manger, signifie non seulement tout autre chose, mais un tout autre chose qui est à l'opposé de ce que manger veut dire. Qu'est-ce que c'est que connaître? Lorsque l'on connaît, et prenons cet exemple banal de la vie quotidienne, très simple finalement, lorsque l'on connaît quelqu'un, que veut dire connaître une personne? Connaître, c'est tout le contraire de consommer. Lorsque l'on apprend à connaître quelqu'un, mieux on la connaît, plus il y a à découvrir de cette personne. On pourrait dire que c'est la définition de l'amour. Aimer quelqu'un dans la durée, c'est apprendre à la connaître, mais de telle sorte que plus on vit avec cette personne et mieux on la connaît, plus les richesses de l'autre personne se découvrent et rendent cette personne plus riche, mais aussi plus complexe, et cela donne envie à celui qui apprend à la connaître d'en découvrir de plus en plus, pour plus longtemps et de manière de plus en plus profonde. Connaître, c'est le contraire de l'appropriation, c'est découvrir sans se l'approprier. Découvrir ce qu'il y a de neuf, d'étranger, de nouveau chez l'autre, sans se l'approprier, c'est-à-dire sans s'en servir simplement pour satisfaire un besoin personnel. Parce que si l'on réduit l'autre à la seule satisfaction de nos besoins, on en a vite fait le tour. L'objet de la consommation, entre guillemets, d'une personne ou d'une chose de la nature ou de la culture, trouve relativement vite sa satisfaction, sa jouissance, et l'on a besoin de renouveler son champ de désir, de trouver d'autres choses neuves, et donc d'aller connaître ailleurs. Que dans un même objet, ou dans un même sujet, qu'il soit culturel ou humain, il y ait un désir toujours renouvelé et toujours plus profond et toujours plus durable, d'aller au-delà de ce que l'on croit déjà connaître et savoir, et découvrir une connaissance, une étrangeté, une nouveauté en le même sujet ou en la même personne, toujours renouvelée, exige quelque chose d'extrêmement important, d'accepter de ne pas réduire l'autre à l'objet de notre satisfaction première, de l'accompagner, l'autre, ou la chose, ou la culture, ou la connaissance, de l'accompagner vers des rives toujours plus lointaines, et qu'est-ce que c'est qu'aimer dans ces conditions ? C'est être capable d'accompagner l'autre très loin de chez soi, mais avec l'autre vers des terres toujours plus lointaines, mais en confiance, sans avoir peur, sans s'inquiéter de quitter un espace familier, parce qu'une relation de confiance, que d'aucuns appellent de l'amour, s'est instaurée entre les deux personnes et permet à celui qui fait connaissance de n'avoir pas cette impression d'être un étranger chez lui-même, mais tout en accompagnant l'autre, de rester en confiance avec l'autre, loin de ses origines, mais toujours pour nourrir et enrichir ses propres origines. Voilà ce que signifie connaître. Autrement dit, connaître, c'est ne pas s'approprier, c'est accompagner ce qui est autre ou l'autre vers toujours plus d'étrangeté qui sera toujours source de plus de richesse. Et si nous récapitulons ce double enseignement sur ce que ne pas manger, sur ce que manger veut dire, et sur ce que connaître veut dire, alors nous entendons avec quelque évidence que l'acte de connaître ne peut pas se laisser consommer. Cela voudrait dire que ces deux termes antithétiques qui suggèrent un sens opposé l'un à l'autre, que ces deux termes, au lieu d'être respectés dans leur finalité, finissent par se confondre ou à s'amalgamer. Il y a un temps pour manger et il y a un temps pour connaître. Mais il y a aussi, dans l'acte de manger, un devoir de connaître, et dans l'acte de connaître, je dirais, une capacité à accepter qu'il y ait aussi de la consommation. On ne peut pas dissocier l'acte de manger et l'acte de connaître. Pourquoi ? Permettez-moi de donner un exemple, plutôt que de l'exprimer d'une manière théorique. Lorsqu'on mange, que veut dire connaître ? C'est pas connaître la nourriture. Si je mange un morceau de pain, on ne me demande pas de connaître la formule chimique de la nourriture que je consomme. Non. Que veut dire connaître tout en mangeant ce morceau de pain ? C'est que ce morceau de pain satisfait certes mon appétit, mon besoin de vivre et de survivre, et c'est normal, c'est nécessaire, c'est incontournable. On ne peut pas vivre sans manger, sans consommer, d'une manière beaucoup plus large que le morceau de pain ou qu'une seule nourriture matérielle. Mais ce même morceau de pain peut être aussi l'objet du désir d'autres gens autour de moi. qu'en consommant ce morceau de pain, je suis peut-être la cause de la mort physique de mon prochain qui, lui, manque de pain et va mourir de faim. Et donc, toute la difficulté sera de et consommer, satisfaire mon besoin pour vivre et survivre, et de permettre à mon prochain, celui qui est proche physiquement, qui vise le même morceau de pain, lui aussi, de vivre et de survivre. Donc il me faut connaître les besoins des autres et les accommoder de mon besoin ou accommoder mon besoin dans la perspective des besoins des autres. C'est une chose qui est éminemment difficile que de manger, satisfaire son propre besoin pour vivre et survivre, et connaître ce qui est autre que soi-même par rapport à cette nourriture que l'on consomme. Ceci est une évidence, mais cela exige, en fait, à chaque fois que l'on mange, une sorte de prise en compte de tout ce qui se passe autour de la nourriture, des besoins des gens qui composent la même société que la nôtre. Et peut-être nous faut-il dire ce qu'enseigne Rabbi Yosef Rosin, à savoir que lorsque l'on mange, on récite une bénédiction, juste avant de manger. Pour quelle raison ? Pas seulement, aussi, mais pas seulement pour remercier Dieu de nous avoir donné de la nourriture. C'est vrai que lorsque seuls les gens qui n'ont plus à manger, comme les gens qui ont vraiment froid, ou les gens qui sont malades, eux savent ce qu'est la nourriture, l'importance de la nourriture, de la santé ou de la vie. Mais ce n'est pas la seule raison. Et là, ils louent Dieu. Mais ce n'est pas la seule raison. Parce qu'en réalité, lorsque, avant de manger, de consommer une nourriture, nous disons que le créateur de cette nourriture, ce n'est pas l'humain, mais le créateur de toutes les créatures, à savoir que toutes les créatures ayant été créées à l'image de Dieu, donc ayant la même dignité, cela veut donc bien dire que les autres créatures qui vivent cette même nourriture ne sont pas moins importantes que moi, ni plus d'ailleurs, et que leurs besoins n'ont pas moins d'importance que les miens. Ce qui veut dire qu'il m'appartient d'accommoder la satisfaction de mes besoins avec la satisfaction que les autres attendent lorsqu'ils visent cette nourriture dont ils ont besoin. Cela s'appelle réciter une bénédiction. Et donc, avant de satisfaire un besoin, par exemple de consommer une nourriture, nous récitons une bénédiction qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde et qu'il nous appartient de prendre en considération cette micro-société qui est en attente de la même nourriture pour qu'il n'y ait pas d'injustice et pour que les besoins des autres soient pris en compte en même temps que les miens, autrement dit pour qu'il y ait un minimum d'équité qui permette à la vie de se prolonger et à la société de durer. Si par contre, je considère que le monde m'appartient, que manger est un acte premier qui se fait sans prendre en compte les besoins des autres, autrement dit que le monde est à moi, à ce moment-là, on arrive, en ne faisant que manger, sans connaître les besoins des autres, donc en ignorant ce que le mot « connaissance » entre parenthèses, des besoins qui sont ceux des autres face à cette même nourriture, et je referme une parenthèse pour que les mots du verset fassent sens pour nous, alors on en arrive à créer une société non pas de vie, mais de mort. Et si tu manges de la connaissance, il y aura de la mort dans l'histoire, j'aurais pu dire dans la société que nous composons, auquel nous donnons forme à chaque instant par nos comportements respectifs. Je voudrais récapituler, peut-être résumer, ce que nous venons d'enseigner, à savoir que manger et connaître, et nous l'avons dit maintenant à plusieurs reprises, peuvent être des termes ou sont des termes antithétiques. Il appartient de ne pas les dissocier. Autrement dit, de ne pas manger sans connaître, ou de ne pas connaître sans manger. Nous avons expliqué ce que manger sans connaître pouvait générer comme travers dans la société. Peut-être nous faut-il ajouter un mot sur ce que connaître sans manger peut vouloir dire. Et à ce moment-là, nous arriverons à la proposition finale, tout en mangeant, il faut savoir connaître, et tout en connaissant, il faut savoir manger. Autrement dit, il y a une sorte d'intrication très complexe de ce que manger veut dire et de ce que connaître veut dire, qui résulte de la lecture de ce verset. Et peut-être, mais cela nous commençons à le comprendre avec l'enseignement de ces très grands maîtres de la tradition d'Israël, peut-être que toute notre vie est véritablement construite autour de cette grande idée, dès que je nais, dès que j'ai une conscience d'être au monde, se joue pour moi un problème énorme qui va parcourir ma vie, m'accompagner à chaque instant. Ne suis-je pas en train de consommer le monde en ignorant ce que je dois connaître pour que le monde puisse survivre? Et, je devrais dire où, ne suis-je pas en train de connaître, et c'est cette proposition que nous n'avons pas encore expliquée, sur laquelle il nous appartient maintenant de dire quelques mots, en omettant de manger, de consommer. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont avides de connaissances. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent que connaître. Je devrais dire, pour reprendre le langage d'aujourd'hui, des gens qui sont mal inscrits dans le monde, des gens qui ne s'occupent pas de la maîtrise du monde, des gens qui considèrent que se nourrir, s'approprier, faire vivre des lois de la nature, autrement dit, assurer la maîtrise de la nature et du monde, n'est pas une préoccupation importante. Des gens qui aimeraient, d'une manière presque avide, s'échapper du monde, échapper à la maîtrise du monde et aux lois de la nature qui permettent au monde de durer, qui aimeraient, je dirais, comme vivre en surface du monde, évacuer tout ce que cette maîtrise de la nature et du monde oblige chacun d'entre nous pour vivre, travailler par exemple. Exercer sa maîtrise sur la nature, c'est travailler, gagner sa vie. Perdre du temps à ne pas connaître simplement pour pouvoir se nourrir. Il y a des gens qui aimeraient ne pas avoir à exercer cette tâche de maîtrise sur l'ordre du monde et de la nature, et qui souhaiterait ne vivre que pour la connaissance, que pour cet immense voyage que constitue la connaissance de la vie, des gens, des choses, de la culture, de la religion, de Dieu, par exemple. Alors, ce monde n'est pas possible. Ce monde n'est pas viable. Ce monde entraîne de la mort. Là aussi, si l'on ne s'occupe plus de la maîtrise, de l'occupation du monde et de ses lois, alors ces dernières seront livrées à ceux qui n'auront qu'un seul souci, avidement s'en emparer pour en faire un usage totalement égoïste. Ceux qui auront décidé de ne vivre que pour la connaissance, comme s'ils étaient des anges, vont perdre leur identité humaine, je dirais leur épaisseur humaine, leur résistance humaine, et, à la limite, disparaître comme les anges apparaissent et disparaissent. Par manque d'épaisseur, je devrais presque dire manque de consistance, manque de résistance aux difficultés du monde. Et si je devais, avec Rabbi Yosef Rosin, donner un dernier enseignement, alors je dirais simplement que si Adam et Ève mangent de la connaissance, Cain tue Abel. Mais ce n'est pas suffisant. Comment sait-on que c'est Cain, le meurtre d'Abel par Cain, qui est en quelque sorte la mise en œuvre, la mise en acte, l'accomplissement de la consommation par Adam et Ève de la connaissance, mais tout simplement en observant ces versets du quatrième chapitre qui pourront faire l'objet d'un autre cours, à savoir, au début du quatrième chapitre, Cain nous est présenté comme un agriculteur, Abel comme un nomade. Si vous lisez le texte avec une très grande attention, vous découvrirez qu'à aucun instant Abel ne parle. Abel est l'homme sans parole. L'homme bien, l'homme de l'accompagnement, l'homme, je dirais, le berger du troupeau, celui qui guide, celui qui soigne, celui qui n'a que des vertus. Mais lorsqu'il y a de la famine, comme l'enseigne le Midrash, il ne sait pas quoi faire, il va dans le champ de Caïn, et là il s'y fait tuer. Il se rend sur le territoire, il se rend sur le territoire de Caïn, et il y meurt. Autrement dit, ne sachant pas faire avec la nature, ne sachant pas comment nourrir en cas de famine son troupeau, il s'assujettit, c'est-à-dire qu'il devient celui sur lequel Caïn peut exercer toute sa violence, et lui ne sait ni communiquer, ni résister, ni se défendre. Abel, c'est la victime éternelle, l'homme de bien, mais l'homme qui ne laisse pas de traces, l'homme qui n'a pas emprise sur le réel, qui ne fait pas les lois, qui ne donne pas un ordre, c'est-à-dire qui ne permet pas à la société de s'ordonnancer autour d'une discipline, de règles, d'une socialité. Abel disparaît comme il est venu, comme un ange. Il y a là une dimension angélique, mais une dimension manquante chez Abel. Trop proche des anges, il restera un homme qui n'a pas réellement laissé de traces concrète, opératoire dans le monde, face à un homme Caïn, dont la démarche consiste à maîtriser les lois de la nature, à produire inlassablement et d'une manière très riche, mais qui ne se préoccupe guère, et même pas du tout, de l'humain, d'éthique, de sens à donner à ses actes, aux lois de la nature et à la vie. Et nous observons que Caïn, c'est l'homme de la maîtrise, l'homme de la consommation. Et que Abel est l'homme de la connaissance, mais coupé du réel, donc coupé de la maîtrise du monde, donc de la consommation. Autrement dit, et pour le dire dans les mêmes termes que Rabbi Yosef Rosin, Caïn est l'homme de la consommation, Abel est l'homme de la connaissance. Ne pas manger la connaissance. Autrement dit, savoir permettre à l'acte de manger, à l'acte de connaître, de se rencontrer subtilement. On dirait aujourd'hui en termes de congruence ponctuelle, c'est-à-dire une sorte d'interpénétration ponctuelle, mais jamais fusionnelle, jamais globale. Sinon, il y a amalgame dans ce que manger et connaître veulent dire. C'est comme si on mangeait la connaissance. Mais sans dissociation absolue. Parce qu'on sait très bien que lorsque celui qui mange, qui maîtrise le monde, et celui qui connaît, celui qui se contente de connaître l'étrangeté du monde et apprendre à le connaître sans s'impliquer dans l'ordre du monde, on sait que si les deux termes, les deux sujets se séparent, le monde n'est pas viable, l'un finit par dévorer l'autre, et l'autre finit par s'absenter au premier. Voilà ce qui nous est enseigné ici. Et c'est vrai que manger de la connaissance, Adam mangeant avec Ève de la connaissance, cela produit dans l'histoire une humanité où il y a d'un côté un consommateur, et de l'autre côté, quelqu'un qui se contente de connaître, mais sans s'impliquer dans la maîtrise du monde. Cela ne peut donner qu'une absence de l'un à l'autre, une rencontre impossible à réaliser véritablement, parce que ces deux sujets, s'ignorant l'un l'autre, n'ont rien à se dire, n'ont rien à s'apporter mutuellement, et il ne peut en résulter qu'une absence à l'autre, voire de la violence, donc de la mort. Ne pas manger de la connaissance. Tel était l'ordre que Dieu donna au premier homme. Et si l'on devait, en guise de conclusion à ce cours, délivrer un enseignement, celui, et je reviens au maître dont nous avons tout à l'heure cité le nom en premier, Rabbi Yitzhak Vilman, dans le Pitrei Shearim. Alors nous dirions ceci. Dieu a donné cet ordre à l'Adam, au premier homme. Et nous commençons à comprendre à découvrir l'importance de cet ordre, puisque finalement nous nous sentons concernés à chaque instant de notre vie par la signification de cette loi, comme si Dieu avait donné une loi à l'humain, mais qu'en cette loi, tout était dit. Avec cette loi, tout avait été dit. Mais la grande difficulté de réduire notre rapport au monde au prisme d'une seule loi, c'est que si on échoue à la comprendre, tout est raté. Or, comme ça ne va pas marcher, Dieu va donner sept lois à Noé, les sept lois noachides. Et si ça ne marche pas, il en donne 613. Il diffracte, il subdivise l'esprit de la loi unique en sept situations possibles ou en 613. Dernier renseignement, c'est qu'en fait, le couple n'existe pas au moment où l'ordre est donné. La femme est créée juste après, comme si on venait nous apprendre là qu'il faut attendre la création de la femme et la relation de couple qui se constitue entre l'homme et la femme pour que l'interdiction de manger de la connaissance prenne toute sa signification. C'est vrai que la vie de couple, la vie d'amour entre un homme et une femme atteste parfaitement de ce que manger ou ne pas manger la connaissance peut vouloir dire. Comme si dans la relation intime entre un homme et une femme, tous les éléments constitutifs de la juste rencontre entre ce que manger et ce que connaître veulent dire nous étaient apportés. Comme si la vie de couple, puis la relation aux enfants, autrement dit, l'histoire qui naît d'une naissance au-delà d'une relation intime, comme si toute cette histoire témoignait de notre capacité ou de notre incapacité à mettre en œuvre ce premier ordre divin donné à l'Adam, de tous les arbres du jardin tu mangeras, de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance, tu ne mangeras pas au risque de mourir ou de produire dans l'histoire humaine de la mort.